l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, à midi ou à 18h, à midi et à 18h si vous en voulez une louche. Aujourd'hui, un entretien enregistré cet été, car les deux invités vivent en région parisienne, même si leurs racines, leur enfance et même une partie de leur âge adulte sont en Bretagne, à Lorient. C'est là que Callon Glass a créé un bar musical punk rock, le Studio Bar, en 1983. C'est à Lorient qu'elle a rencontré Yann Mine, aujourd'hui son mari. Tous deux sont artistes. Yann, tendance scientifique et philosophe, et ça a son importance. Et Callon, tendance autrice, femme de médias et de télévision. Tous deux se rassemblent sous les bannières de la science-fiction, de l'univers cyberpunk. Yann Mine explore même la noosphère, un concept qu'on doit au philosophe Teilhard de Chardin. La noosphère, c'est la couche pensante humaine de la Terre, l'ensemble des pensées, des consciences et des idées produites par l'humanité à chaque instant. Tous deux sont donc curieux, tous deux créés et ils ont donc, dès le début de leur vie artistique, plongé dans ce qu'on appelle le numérique. C'est donc vers eux qu'on se tourne pour explorer ce que le numérique a fait à l'art et vice-versa. Ce sera un entretien en deux épisodes, en voici le premier. Bonjour.
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 On va essayer en fait de faire une interview pas trop foisonnante parce que le sujet est vraiment foisonnant. Comme vous êtes là tous les deux, vous allez nous expliquer chacun comment est-ce que le numérique est entré dans votre vie, enfin surtout dans votre art.
Je pense que, en tout cas, la technologie et les ordinateurs m'ont toujours passionnée.
Comme quoi, même les filles, hein, on dit toujours que les filles...
Ah non, mais c'est faux, moi ça m'a toujours hyper intéressée. Je jouais au premier jeu vidéo, par exemple. Hein. D'ailleurs, dans le studio bar, j'avais installé des petits jeux.
Des jeux d'arcade. Voilà,
exactement, les jeux d'arcade, hein, auxquels j'étais très, 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 très forte. Hein. Tout le monde était jaloux de moi. Ensuite, puis la vidéo, bien sûr, aussi. Hein, la photo, bien sûr. Enfin, la photo argentique à l'époque. Mais c'est l'image aussi, tout ça. Enfin, qui fait sens.
Vous étiez plutôt une artiste visuelle.
Oui, je crois d'abord effectivement que je suis une artiste visuelle. Tout m'intéresse en fait, c'est très compliqué.
Oui, non, mais c'est la vie. Hein.
Voilà. Le langage m'intéresse beaucoup, l'information m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur là, qui. En fait, je suis hyper sensible, hyper émotive, hyper sensible. Donc, je réagis très rapidement aux choses que je vois. Donc, forcément, l'image, l'œil. Tout ça, c'est global. Après, je rêvais de maison, tout ça. Je me suis dit, je vais faire l'école Boulle. Alors, c'est une école de design, c'est une grande école reconnue aujourd'hui, qui était à l'époque plutôt des ensembliers, décorateurs qui fabriquaient des meubles, des menuisiers. Mais c'est une grande, grande école, hein, l'école Boulle. Elle est très impliquée dans le design d'interaction. De design.
On peut même faire de la reliure, je crois. Enfin bon, mais c'est quand même.
Ça... Non, mais il y a aussi des créateurs. Mais oui. Bien sûr, c'est
le
ça aussi.
Le numérique est entré à l'école Boulle.
Ah, mais évidemment, ah ouais. Bon, évidemment, c'est une des meilleures écoles
mais,
dont on parle.
Ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'elle sait à peine après avoir construit son bar punk musical
à Lorient, hein,
à Lorient, qui avait déjà une clientèle LGBTQI+
aussi
à l'époque. Elle va infiltrer les mass médias puisque elle va se démerder pour entrer à France Télévisions et elle va bosser pendant 30 ans à la rédaction de France Télévisions, au cœur même du système de contrôle, de traitement de l'information paranoïaque de notre société. Ce qui fait que, lorsqu'on va se retrouver, la première question que je lui pose, c'est « Alors, qui contrôle ?» Qui contrôle, qui est au sommet du système de contrôle de l'information en France? Et là, la première réponse qu'elle me fait, mais c'est un vaste bordel. T'imagines pas comme c'est le bordel.
C'est plutôt rassurant quelque part, non?
Mais c'est plus ça maintenant. C'est plus ça. Ouais. Et puis, en fait, après sa passion. Parce que moi, on s'est rencontrés pour la première fois donc en Bretagne, elle était déjà passionnée de vidéocréation, etc., à tel point que j'avais été halluciné de découvrir qu'elle avait un Betamax chez elle et elle enregistrait en particulier les Enfants du Rock et Haute Tension après Les Enfants du Rock, où mes premiers films de vidéocréation, justement numérique, et elle avait une copie de mon premier film de vidéocréation en 1984 que j'avais présenté à Beaubourg à l'époque.
Là, on est dans la préhistoire du numérique, on peut le dire.
Voilà. Et en fait, sa carrière, on plaisante beaucoup là-dessus, c'est une jeune artiste du numérique, puisqu'elle va s'impliquer à fond et dans l'écriture et dans le numérique, là, il y a 5 ans, quoi. Il y a 5-6 ans.
Ah oui, seulement. Pourquoi seulement maintenant ?
Alors, c'est en 2013 que je suis retournée à l'école Boulle. Hein. C'est là où j'ai appris à me servir de SketchUp, de Photoshop, de toutes ces...
Oui, c'est assez récent, finalement.
J'étais très fascinée par le code. J'avais très envie d'apprendre le code, mais je travaillais, j'avais... 3 enfants, de mener tout ça de front. J'avais envie de faire plein de choses, mais j'avais pas l'énergie. Aujourd'hui, le temps nécessaire. Et aujourd'hui, je fais plein d'autres choses. Enfin, par exemple, je vais essayer de pas m'éloigner trop, mais je fais aussi des ateliers pour apprendre aux enfants à coder sans écran avec un petit robot qui s'appelle Cubeto. Et ça me plaît beaucoup, c'est donc le code, formater le cerveau des jeunes enfants à penser code, c'est à penser logique, hein, tout
oui,
simplement.
C'est ça. C'est du rangement.
Exactement, c'est du rangement. On compare ça à une recette de cuisine, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Comment on fait une recette. Donc je suis retournée là à l'école Boulle, j'ai commencé à apprendre Photoshop, SketchUp, et ça a été le début. C'est au même moment d'ailleurs que j'avais retrouvé Yann, parce qu'on s'est rencontrés il y a très longtemps, donc à l'époque du studio bar. Et on a eu plein de rencontres, plein de croisements. Et pour finir en couple, mariés, mais il n'y a pas de hasard. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser plus à plein de choses, à écrire aussi, mais j'avais plus de temps. Et c'est ce que je m'étais dit tout le temps, c'est-à-dire que... Après, quand mes enfants seront grands, pour l'instant, c'est mon job. Je vais construire mon avenir. Je vais gagner un peu d'argent, enfin, pouvoir vivre plutôt que survivre. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, ça, je l'accorde. Je me suis battue. Et puis, pour finir, aujourd'hui, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, quand les mid-journée ou les applications, enfin les applications d'intelligence artificielle sont arrivées, j'ai eu envie d'essayer tout de suite. C'était trop attirant. Et puis j'y suis allée. Puis ça m'a rendu un peu dingue quand même.
Ça sera le sujet de la deuxième partie de l'émission, les intelligences artificielles, parce que c'est tellement vaste. Yann, Mine, c'est pareil, vous étiez un geek dès le départ, curieux du numérique.
Ouais, non, là, c'est, je dirais, c'est presque un parcours logique. Mes parents étaient des militants communistes assez très impliqués dans la vie sociale, très actifs. Et en fait, ils avaient un réseau d'artistes autour d'eux, d'amis artistes et d'amis ingénieurs, chercheurs. Et il y a donc 50 ans, je me rappelle, j'avais 15-14 ans et j'ai eu accès très tôt à la sous-culture, comment on va dire, l'anti-culture américaine des hippies techno qui ont généré la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a un peu oublié, c'est que l'informatique contemporaine est essentiellement née à cette époque-là d'un idéal, comment on va dire, d'une utopie hippie, qui est très bien raconté et expliqué dans un bouquin qui s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique », je le conseille, puisqu'il raconte justement cette histoire-là, Fred Turner, « Aux sources de l'utopie numérique ». Et un des amis en particulier de mes parents était Gérard Vérousse d'ailleurs, qui est toujours vivant et actif, hyper actif en ce moment. Et Gérard Vérousse est un des chercheurs qui a amené l'informatique et surtout la cybernétique en France. Et il fréquentait justement les communautés de hippies techno qu'ont généré les Silicon Valley. Et je pense que c'est lui qui a amené chez mes parents des exemplaires du Waller's Catalogue, qui est le précurseur de l'Internet, mais sous une forme écrite, qui était un espèce de recueil de tout ce qui est de mode d'emploi des milliers de modes d'emploi différents qui allaient depuis comment transformer son combi Volkswagen pour en petite maison, fabriquer des jeux de lumière électronique pour pouvoir rentrer dans des états de conscience modifiés, qu'est-ce qu'apportait le LSD en termes de modification de conscience, etc., etc. Et donc j'étais passionné par ces écrits-là et d'autres choses. Et donc dès 15 ans, je me suis retrouvé immergé dans la contre-culture américaine. Et le courant, l'histoire a fait que soit je m'engageais pour faire la révolution armée, comme indiqué mes parents, hein,
un sacré choix,
rentrer comme général, enfin avoir une carrière militaire pour faire de l'entrisme au sein de l'armée, et ou avoir une carrière artistique. Et j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, plutôt un tropisme pour la carrière artistique, ce qui fait que mes parents m'ont inscrit aux Arts Déco. J'ai passé le concours, je suis rentré direct au métier d'art puis aux Arts Déco à Paris, et surtout je suis arrivé dans l'atelier vidéo des Arts Déco au moment où le directeur des Arts Déco, Michel Tourlière, investissait dans un studio de télévision à 1 million de francs. C'était une somme astronomique à l'époque, hein. On courait après le papier calque dans les écoles d'art, et là il y avait un studio de télévision de recherche d'art vidéo dirigé entre autres par Don Foresta, et je m'y étais inscrit par hasard. Je voulais faire du dessin animé, et là je me retrouve connecté sur la première grande disruption de mon vivant. C'est-à-dire qu'il faut penser que les intelligences artificielles s'inscrivent dans toute une histoire de disruption successive, dans ce que les transhumanistes et les singularitariens, en s'inspirant de la loi de Moore, tendent vers ce qu'ils appellent la singularité. Et en gros, les disruptions vont s'étager d'un rythme de plus en plus rapide. Oui, c'est-à-dire elles s'étalent en siècles, puis en décennies, et maintenant en années. Et donc, une des premières grandes disruptions que je vais vivre, c'est le passage du cinéma, du 16 mm par exemple, pour faire les reportages, à la vidéo. Et je vais faire une installation d'art vidéo qui simule un métavers en 1983 au centre Georges Pompidou. Déjà, et à partir de là, je me retrouve catapulté à la fois dans les arts plastiques, et puis je vais suivre l'évolution et m'inscrire comme artiste numérique, m'inscrire dans le champ des arts numériques.
Et vous étiez un peu pionnier par rapport à vos collègues qui aspirent artistes ou pas, ou c'était quand même tendance.
Alors c'est
générale.
les deux, c'est-à-dire que je peux pas dire que je suis un pionnier, puisque avant moi il y avait quand même Fluxus, hein, il y avait les Américains évidemment, hein, il y avait tout ce courant de création justement issu des hippies techno aux États-Unis, donc ils avaient 30 années d'avance sur l'Europe et la France. Juste à l'époque, dans les années 80, il y avait tout un courant d'art vidéo qui existait, hein, d'artistes qu'on se côtoie toujours actuellement, qui avait, on va dire, une génération de plus que moi. Moi, j'étais un petit jeune, un peu quand j'ai débarqué. Donc, on ne peut pas dire que j'étais un pionnier. Je faisais partie d'un courant qui a émergé à ce moment-là. J'ai été pionnier dans ma forme artistique. Ça, je peux l'assumer. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais fasciné à la fois par l'esthétique cyberpunk. C'est-à-dire que j'étais nourri de science-fiction. Et mes premières installations, toute ma création artistique était dans l'esthétique cyberpunk, clairement. Et esthétique cyberpunk, esthétique BDSM, esthétique fétiche. Et ça a beaucoup dérangé. Mon esthétique cyberpunk, à l'époque, était très très mal vu du milieu des arts plastiques, parce que beaucoup trop justement digital, science-fiction, etc., à une époque où c'était l'épuration des formes et le conceptuel qui était la norme.
Ah oui, hein. C'était pas tendance, quoi. Mais bon,
non, pas du tout.
C'était juste
tout.
Ça.
Puis c'était
fait.
Vraiment une norme, hein, puisque j'ai fait quand même 4 grandes écoles d'art, et à chaque fois, on me ressortait le même conte de fées du conceptuel comme sommet de l'art après l'impressionnisme, le cubisme, etc. etc. Et en fait, j'étais sauvé, c'est-à-dire que j'ai quand même exposé à Beaubourg, ce qui a amorcé une carrière artistique. Mais petit à petit, le milieu des arts plastiques a commencé à plus m'exposer parce que je posais trop de problèmes au niveau de mon esthétique qui n'était pas assez dans la norme. Et j'ai été sauvé par l'Internet. C'est-à-dire qu'en 1980, et ce qui préfigure, d'ailleurs, c'est une des grandes disruptions qu'il y a eu, la plus grande d'ailleurs, avant les IA, je commençais à être un peu dépressif, puisque c'est ce que j'explique, dans les années 80 et 90, au siècle dernier, il fallait appartenir à une pyramide. Tout était structuré sur une pyramide très fermée, qui était la pyramide des galeries, des musées, des conservateurs, etc. Et si vous, en tant qu'artiste, vous n'étiez pas exposé, ce qui était extrêmement difficile,
vous n'existiez pas.
Et ce qui génère un état de négation existentielle dépressif assez fort. Et on a un très très fort taux de suicide chez les artistes, hein, quand même, il faut le savoir, parce qu'il va leur manquer, il va nous manquer parfois dans notre vie l'exposition qui nous aurait sauvés.
Ouais. Un public. Plus que de l'argent, quoi.
C'est même pas une question. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas de l'argent, c'est d'être vu, de pouvoir exposer.
Alors là, Internet, évidemment, pour ça.
Et là, voilà, un pote me dit, mais est-ce que il faut que tu apprennes à coder le HTML. Je dis, pourquoi? En plus, le code, je suis pas vraiment très, très doué sur le code, mais bon, je m'y mets. Et je commence à créer mon premier site web en 96, hein, au moment où l'Internet devient grand public. Et là, c'est miracle, je suis sauvé littéralement. C'est-à-dire, je découvre que dans le monde entier, j'ai un public. Pas un énorme public, hein. c'est pas un million de publics, mais c'est quelques milliers de personnes, artistes aussi, qui sont dans le même champ artistique que moi. Et à ce moment-là, je sors vraiment de l'état dépressif dans lequel je commençais à m'engager, parce que j'ai rencontré mon public, qui était un public à mon image de cyberpunk, en fait, et qui se sont emparés très très tôt de l'Internet pour exister, pour être présent dans le cyberespace et dans les métavers.
Et vous, Callan Glass, Internet, par rapport à votre travail artistique ou à la découverte d'autres artistes, parce que vous êtes aussi un peu agent d'artiste, je crois, non ?
Curatrice, effectivement. Du moins, j'ai commencé... en fait, l'idée d'il y a quelques années, c'était... j'étais entourée d'artistes qu'on appelle nouveaux médias, enfin, qui utilisaient donc tous ces médiums. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait autour de Yann, puisqu'évidemment c'est à travers Yann que je les ai rencontrés quand même beaucoup. Il y avait donc Maurice Benayoun, Miguel Chevalier, Zaven Paré, de grands artistes. Jérôme Lefdud, mais qui était connu à l'international, qui était montré partout dans le monde entier.
Mais je vous avoue que je les connais pas. Hein.
Non, mais c'est dingue, c'est insupportable. Oui. Moi, ça me choquait. En plus, je travaillais dans une rédaction quand même.
Ah oui, 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 mais la télé, alors en plus,
bah non,
c'est
mais
vraiment
dans
ce
une
qu'on
rédaction.
Appelle le mainstream, c'est pas une légende. Hein.
C'est clair, mais effectivement, mais c'est vrai que ça me choquait énormément, et j'avais vraiment envie de monter une structure. Qui s'appelait aussi Callan Glass d'ailleurs, hein, parce que je suis un peu monomaniaque, obsessionnelle, pour faire connaître en France, en fait, tous ces artistes qui sont fabuleux, qui font des choses fabuleuses, et en France, mais qu'on ne connaît pas, que la plupart ne connaissent pas. Alors effectivement, ils ne sont peut-être pas relayés assez par la télévision. Moi, je trouve ça pas très intéressant, et la télé, ce n'est pas très intéressant.
Et Internet permet...
Et Internet, c'est quelque chose de fascinant. Moi, alors, je m'y suis mise tout de suite, hein, forcément. De toute façon, tout ce qui est communication m'intéresse, évidemment. Parce que c'est ça, l'information, c'est la communication. Les premiers téléphones portables, j'ai acheté le premier téléphone portable dès que j'ai pu en acheter un. J'ai acheté un ordinateur. Mes enfants, ils ont grandi tous avec un ordinateur. Enfin, je savais qu'en moi, il y avait quelque chose qui était là et c'était vital, quoi.
Est-ce que vous diriez l'un ou l'autre, que le numérique a juste été un outil vraiment qui a facilité certaines choses, ou est-ce que ça quand même, ça vous a permis d'être artiste aussi, ou est-ce que vous n'auriez pas été s'il n'y avait pas eu ces outils ?
Ouais, clairement, hein, les outils du point de vue de McLuhan, j'adore McLuhan parce qu'il a travaillé sur les outils sont des amplificateurs. Tous nos outils sont des amplificateurs. Ils amplifient quelque chose. Hein. L'automobile amplifie la marche, la course, la locomotion. L'appareil photo amplifie évidemment la vision, mais surtout la mémoire. Et le numérique, hein, l'informatique, ce sont des amplificateurs cognitifs. C'est-à-dire, ce sont des choses qui amplifient nos capacités cognitives. Et c'est un peu des couteaux suisses. C'est-à-dire, ça va amplifier des choses spécifiques dans certains endroits. Par exemple, les réseaux sociaux numériques, ce sont des amplificateurs existentiels. C'est-à-dire on existe, on amplifie notre existence collective, hein, c'est-à-dire qu'on se met à exister pour des petits villages collectifs au sein d'une communauté de plusieurs milliards d'humains connectés, et avec toutes les dérives que ça peut créer. Donc à la fin, comme tout outil, ils ont un côté positif, et puis un côté négatif. Alors le côté positif, bien évidemment, c'est l'amplification, hein, et qui génère de la créativité, qui génère, ça ne remplace pas, par exemple, la métaphore que je fais souvent, l'analogie que je fais souvent, c'est l'automobile, qui est un outil déjà ancien dont on peut analyser assez clairement les effets qu'elle a sur l'humanité, sur l'individu et l'humanité. Et si tu prends l'automobile donc n'a pas remplacé la marche. Souvent on dit, il y a
oui,
souvent dans le
de
discours,
même que la radio n'a pas remplacé la télé.
Voilà, global, on te dit oui, mais ça remplace les relations humaines originelles, etc. Alors non, l'automobile n'a pas remplacé la marche. Au contraire, elle a amplifié la marche. C'est-à-dire, on utilise l'automobile pour aller marcher près de la campagne, près de la rivière, près de la oui, mer, tu oui, vois, dans la montagne. C'est-à-dire qu'on va prendre l'automobile pour marcher, justement, pour faire de la randonnée. Et l'automobile, et surtout, c'est ça qui est important avec les nouvelles technologies, l'automobile a par contre inventé de nouvelles relations au monde qui n'existaient pas avant.
Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un changement de nature et pas seulement de...
Alors, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Ça ne remplace pas, mais ça vient s'ajouter. Oui. Et qu'est-ce que... Alors, le truc qu'on peut voir très clairement qui vient s'ajouter, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on peut... moi, je me suis vu au début, quand j'avais une automobile, les premiers temps où j'ai eu une automobile, de rouler des nuits entières sur les autoroutes à grande vitesse en écoutant de la musique. Ça n'existait pas. Alors, il y a quelqu'un qui avait juste... Il y a un précurseur, je le raconte parce que c'est rigolo, c'est quand même Gilles Leray. Gilles Leray...
Oui, le fameux tueur en série c'est ça, de l'époque de Jeanne d'Arc. Collègue de Jeanne d'Arc.
Gilles Leray, j'ai lu dans un recueil sur lui que quand il se déplaçait de son château de Machecoul à Tiffauges, il avait fait installer un orgue à roulettes avec des chœurs qui chantaient des ordres à Jeanne d'Arc sur son trajet. Donc, il avait inventé l'autoradio, ce qui est déjà pas mal. Bon, il ne le faisait pas à 200 km/h, mais c'était assez rigolo. Ben ça, c'est une anecdote rigolote. Et le dernier point qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, il y a un défaut, c'est-à-dire le fait de s'amplifier va générer des états très particuliers de dépendance que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. Alors, je vais...
C'est ça, parce que j'allais dire, c'est vrai que dans n'importe quelle communauté humaine, on a une image publique et une image intime. Donc, sur les réseaux sociaux, on a son image publique. Et voilà, l'échelle est autre, quoi. Voilà.
Enfin, alors, pour comprendre la narcose narcissique, toujours l'automobile, et ça fait pareil pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on devient un cyborg. Alors,
un être numérique, c'est ça.
Alors, un être amplifié. Okay. Nous devenons, notre corps a été amplifié de façon extrême par l'automobile, parce qu'on se déplace à très grande vitesse. Hein, on multiplie par 10, 100 notre vitesse de locomotion. Et à partir de ce moment-là, déjà, savoir qui nous sommes à poil, c'est pas évident. Mais alors, qui nous sommes, le grand problème de l'humanité, c'est qui suis-je? Qui nous sommes avec un outil qui nous amplifie un des membres à fond, on va rentrer dans un état de stupéfaction, de torpeur, que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. Mais narcisse, non pas dans l'esprit de « oh, que je suis beau dans ce miroir », qui est une perversion du mythe de Narcisse. Narcisse est fasciné par son reflet dans l'eau. Il essaie de comprendre qui il est. Et tant qu'il n'aura pas compris qui se reflète dans l'eau du lac, il restera figé sur ce reflet.
Il n'ira pas
bien. Et nous, avec l'automobile, c'est pareil. On va essayer de savoir qui nous sommes avec l'automobile et comment l'humain sait qui il est. Il a deux solutions. Soit il est de nature divine et il peut se sortir de lui-même et se regarder faire. Sinon, comment savons-nous qui nous sommes? Et on peut observer toute l'histoire de l'humanité à travers ce filtre-là. Nous savons qui nous sommes à travers notre médiocrité. C'est-à-dire, c'est lorsque nous avons atteint nos limites. Et toute l'histoire de l'humanité est l'exploration de nos limites collectives et individuelles. Et donc, le jeune conducteur va pousser l'automobile et lui-même dans ses limites jusqu'à ce que se vautrer un certain nombre de fois. Et une fois qu'il a compris qui il est, et ses limites avec l'outil qui l'amplifie, il va sortir de l'état de narcose narcissique et se désintéresser et perdre un peu de sa fascination pour l'automobile, bien que des millions de gens restent scotchés sur leur automobile toute leur vie. Ouais. Mais c'est dangereux. L'automobile est très dangereuse comme outil parce que se pousser dans ses limites avec l'automobile, c'est 5000 morts par an sur les routes en France. Alors que l'Internet, les réseaux sociaux, on peut se pousser dans ses limites relativement, en étant relativement sans danger, sinon
sauf mettre fin à ses jours parce qu'on a constaté sa médiocrité dans toute son ampleur.
Alors là,
ce qui arrive parfois, enfin sa médiocrité ou une souffrance du fait
absolument, parce que c'est un amplificateur existentiel. Ah oui. Donc si tu n'existes pas dans la matrice, tu vas le vivre comme les artistes qui n'arrivent pas à exposer.
Bah ouais.
Personne ne t'écoute dans la matrice ou te rejette ou te harcèle, c'est un amplificateur existentiel, donc ça va amplifier l'état de dépression et de négation morbide.
Donc c'est pas un outil totalement neutre le numérique,
absolument
on est d'accord.
Mais l'humain n'a jamais fabriqué d'outil neutre. filtre.
Et un autre point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est le caractère éphémère quelque part du numérique. C'est quand même un problème pour la permanence de nos œuvres d'art, en l'occurrence. Callan Glass, oui.
Pour ma part, en fait, c'est un moyen d'expression, donc c'est un outil, si on a quelque chose à dire. Ce qui est justement intéressant, pour rejoindre le propos d'Yann, c'est la vitesse d'exécution, la vitesse de faire et de se confronter justement à sa narcose, qui je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui te fait exister.
Oui.
Qu'est-ce que je ressens, moi, du monde qui est à l'extérieur. Donc, après, effectivement...
Oui, mais si le message n'est pas... Alors, si on a trouvé son message, on a trouvé son expression, alors, on sait même qui on est, mais alors, aussi bien, ça ne va pas durer longtemps. Enfin, ça ne va pas rester longtemps.
C'est vrai, ça ne va pas durer longtemps. Mais ce n'est pas très grave, je pense.
On sera mort.
C'est important. Non, mais on continuera. On va continuer parce que, justement, enfin, y a tellement de choses qui se passent et c'est tellement dense.
Alors, oui, il y a aussi le trop plein, hein, parce que ça.
Il y a énormément du trop plein, et il y a du trop plein, puis il y a du trop lisse, qui n'ont pas tellement d'intérêt. Enfin, voilà. Oui. Mais après ça, c'est propre à la narcose de chacun pour se trouver. En fait, c'est en évolution perpétuelle, puisqu'ils apprennent.
Mais c'est pas un problème. On n'a pas besoin parfois de s'arrêter. Enfin, justement, on parlait de vitesse, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de choses qui restent? Non. Enfin, c'est une question. Hein,
alors,
pas de réponse,
hein. Personnellement, j'imprime mes images.
Hein. Ah bah voilà.
Je les imprime, je les mets sur le net, bien sûr. Ouais. J'essaye de les faire vivre d'une autre manière. Évidemment, c'est les montrer, faire des expos, et effectivement.
Mais on peut se contenter des interactions qu'elles génèrent. On peut se contenter des interactions qu'elles génèrent avec les autres humains.
On peut faire ça. Ça suffit. Ouais. Ça peut suffire largement, largement. On voit plein d'artistes qui font ça, et moi, ça me suffit largement aussi.
Il n'y aura pas de musée, il n'y aura pas de conservatoire de ces œuvres-là, quoi.
Je ne sais pas, je pense que si, quand même, parce qu'il y a des choses... Alors, pour revenir, on a fait une expo au mois de mai, qui s'appelle « Art dégénératif interdit », où quand on tapait des phrases, la plus grande, la plus extraordinaire œuvre d'art qui n'est jamais existé, nous sortait des images assez, comment je dirais, difformes, un peu glauques, un peu qui touchaient le corps humain, mais c'était très étonnant.
On demandait à Midjourney quelle est la plus grande œuvre d'art qui ait jamais existé.
C'est ça.
Ah ouais.
Alors,
c'était que du visuel. Alors, il n'y avait pas de son, parce que là, nous, on est sensibles à ça.
Il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son à l'époque.
C'est très discutable.
Il n'y avait pas de son à l'époque. Oui, alors un prompt, sur Midjourney, je ne sais pas si il est utile de le dire,
oui,
quand
si,
même,
si,
c'est
si,
qu'on
si.
On rentre un prompt, hein, c'est-à-dire une phrase,
une
clé,
commande,
des mots clés, une commande, des images en langage en fait qu'on demande à Midjourney de fabriquer. Donc c'est important effectivement de le dire. On n'a pas toujours ce qu'on obtient. Là, on se confronte à la machine. C'est ça qui est aussi intéressant. Il y a un degré de vitesse aussi qui est hyper intéressant, que moi je trouve, parce que j'ai envie souvent, je suis en... Alors je sais pas si je digresse. Hein,
si, bon, mais en fait, je prendrais plutôt ce passage pour la deuxième partie, en
d'accord.
fait.
Ouais.
Mais, ouais, termine.
Oui, je suis très réactive à la... Par exemple, à l'information et... J'étais très choquée, par exemple, enfin, les migrants en Méditerranée qui sont pas sauvés, abattus. Enfin, c'est hallucinant. J'ai eu envie de faire une image, quoi. Donc, j'ai fait une image très colorée avec des migrants sur un canoë de couleur, habillé de dollars et de billets de banque, en fait. Parce que la dualité et le monde me choquent, en fait, et je comprends pas. Mm-hmm. Donc j'ai besoin aussi de sortir ces choses-là, et ça me permet de Ça me permet de réagir, en fait.
Oui, tout à fait.
Et surtout,
parce que c'est rapide.
Ce que veut dire Callan, c'est que ce qui est important, c'est la vitesse d'exécution.
C'est-à-dire qu'elle
a pu produire très rapidement une image cohérente en rapport avec ses émotions du moment.
Je comprends.
C'est-à-dire et ça, c'est très, très utile.
Bah, je suis l'information, en fait. Ayant travaillé dans une rédaction, c'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, il se passe un truc, on fait un sujet dessus. J'applique la même méthode et j'ai une réaction et ensuite je le poste sur mes pages de réseau, pour pouvoir communiquer dessus. Et ça me fait du bien.
Je comprends. Sur la permanence des outils. Parce qu'ils sont pas, ils périment très vite, ces outils. Et du coup,
absolument.
Les supports aussi.
Absolument. Alors, ce que tu évoques, alors évidemment, ce que tu évoques de toute façon est un problème structurel de l'humanité et je dirais même du vivant. C'est ce qu'on appelle la négantropie, l'entropie négative. C'est-à-dire que le vivant, pas seulement l'humain, le vivant depuis l'aube du vivant, depuis 4 milliards d'années, tend à la complexité. Et à travers un processus justement d'impermanence. C'est-à-dire que l'information du vivant, via l'ADN, le vivant, c'est de l'information. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui se sert de la matière pour se propager, se complexifier et se développer. Donc le vivant n'a pas de matérialité et surfe, c'est de l'information qui surfe sur la matière en permanence. Et la matière se désagrège, la matière elle subit l'entropie. Hein, l'entropie
c'est comme
l'univers.
Ça qu'on a évolué, hein, d'ailleurs.
Et l'humain, l'art, s'inscrit. C'est une métaphore active, comme dit McLuhan, c'est une métaphore active d'un processus mimétique donc, qui est lié à la négantropie, où, et on le sait, tous les artistes le savent d'ailleurs, nos œuvres passent leur temps à s'auto-détruire. C'est assez impressionnant, mais on consacre beaucoup d'énergie, que ce soit des œuvres numériques ou des œuvres réelles, à lutter contre leur destruction. Par exemple, j'avais fait une sculpture assez monumentale en plâtre en 1983 pour mon installation Média Zéro, et cette sculpture a été détruite par la malveillance d'un concierge là où elle était stockée. Dans le bâtiment était stocké. Et j'ai plein d'œuvres comme ça, à chaque déménagement, à chaque fois que je bouge, d'œuvres qui disparaissent, qui sont détruites dans des expositions, etc. Et je consacre énormément d'énergie à essayer de maintenir vainement une pérennité déjà de mes œuvres physiques, dans le monde physique. Et on a le même phénomène, effectivement, tu as raison de le souligner, hein, un phénomène d'obsolescence rapide des œuvres numériques, du fait, alors là, ça vient pas soit de la malveillance, ça peut venir, mais c'est rarement de la malveillance, c'est lié simplement à l'évolution des dispositifs, hein, des technologies, qui fait qu'un fichier n'est plus lisible 10 ans plus tard. Et ça va aller en accélérant. Donc il y a toujours une volonté, une velléité des institutions, des artistes, de militer pour des conservatoires du numérique, ce qui pose des problèmes assez conséquents, puisqu'il faudrait conserver les ordinateurs de l'époque. Moi, j'ai des œuvres. Là, j'avais une œuvre, mon premier Noho Museum, mon premier musée virtuel que j'avais réalisé sur Macintosh en 2003 avec Unreal Tournament, en hackant le jeu Unreal Tournament, a réussi à tourner jusqu'au passage des Mac M1, la nouvelle puce Apple, fait que, alors étonnamment, j'avais réussi à conserver ce musée-là sous cette forme-là jusque cette année. Et là, les Mac ont évolué, le système a évolué, et donc il n'est plus lisible. Ouais. Donc il va clairement disparaître. Et je consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors heureusement, le Noho Museum existe toujours, puisque je l'ai reconfiguré. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à l'upgrader pour qu'il continue à exister. Mais quand je ne serai plus là pour surveiller l'évolution, c'est des êtres vivants. Hein.
L'art
numérique, le digital, c'est vivant. C'est clairement vivant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit là pour les accompagner, pour le suivre. Et en plus, ça évolue. Quand je dis c'est vivant, c'est parce qu'un fichier numérique créé il y a 20 ans, maintenant, est beaucoup plus beau, plus performant grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire les systèmes de lecture du fichier sont devenus plus performants. Et donc, les images créées ou les animations créées, si on les régénère, sont plus performantes, plus belles, plus efficaces maintenant. Donc, c'est intéressant. Ça aussi, c'est un phénomène d'évolution du vivant. Hein. Il y a quelque chose de vivant dans le numérique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les IA sont alors un gap, une disruption radicale à ce niveau évolutif.
La suite
évolutif,
de cet épisode en compagnie de Yann Mi et Callan Glass sera consacrée plus spécifiquement aux relations entre l'art
et
l'intelligence artificielle.
Mais qui a des spécificités évolutives très, très, très impressionnantes
sur le site et le sujet de la deuxième discussion. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci.